18h-19h. C'est 100% paillade sur France Bleu Héros.
J'entends la voix tous les vendredis soirs à 18h précise de Bertrand Connaught. Salut Bertrand.
Salut Sébastien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour 100% paillade. Trêve de plaisanterie ce soir, les choses sérieuses vont commencer dans moins de 10 jours. La bataille finale pour le maintien en Ligue 1 avec plusieurs concurrents, vous le savez, sur notre chemin. Qui sont-ils? Comment vont-ils? On va regarder tout ça d'ici 18h30 avec la team bleu paillade du jour. Évidemment Benjamin Psaume, notre consultant. Salut Benji.
Salut Bébert, salut à tous.
Jus Castagnera Made in Foot. Salut. Bonsoir Jus.
Salut Bertrand, salut Benji.
Et on devait être avec un supporter en studio, Thierry. Titi Baramine, il nous a mis une carotte.
Il reste sur la béquille.
Il reste sur la béquille. C'est le cas de le dire parce qu'il a un souci avec sa moto. Donc on l'embrasse. Il a peut-être quand même mis 100% paillade pour écouter ce que ça donne une émission sans lui. Voilà. Il fait faux bon au dernier moment. Non, on l'excuse évidemment. Il était bien désolé, Thierry. On espère que ça va se régler. Jus, vous y connaissez un petit peu en mécanique?
Je suis portugais, donc je suis pas mécano.
Ah non. Oh. Il a d'autres compétences. C'est cliché, ça sert à ça.
C'est limite.
Ça peut causer des problèmes.
Tu commences très mal.
Je vous connais.
Ça peut être une fin de carrière, ça.
Ouais. Elle n'a pas commencé encore, mais...
Bon, on sera avec un autre confrère dans un instant, c'est François Manoury de France Bleu Normandie. Il commente les matchs du HAC, le HAC, le Havre, notre prochain adversaire. Donc, il va nous dire comment ils sont, ces footballeurs avrés que j'ai suivis.
Je pensais que c'est toi qui en allais appeler.
Dans une autre vie. On parlera d'une autre vie, justement, qui démarre pour Benjamin Psaume en fin d'émission.
La
resta de l'émission, Benjamin Psaume, là, ça y est.
Photo-autographe, on attend un peu.
Le long FC.
De suite.
À suivre aussi la décla de TJ Savanier sur le maintien et sur le ventre mou. Vous nous direz si vous partagez l'avis du capitaine de Montpellier. Je sais que Benji, en tant que joueur, t'as un avis peut-être différent de celui des supporters. Nous, on a notre avis aussi en tant que journaliste avec Jus Castagnera. On en parlera. Vous nous direz aussi sur le hashtag Bleu Paillade ce que vous en pensez. Le stade également. Autre sujet, nouveau rebondissement, nouveau projet. C'est peut-être le dernier. Là aussi, on va en parler après 18h30. Et puis les filles avec la réception du PSG, Montpellier PSG, c'est à 21h dimanche soir, gros match évidemment. On attend Katoto, peut-être que Jus Castagnera sera en bord pelouse pour faire des photos, c'est possible.
Ouais, il a fait le petit sourire coquin là, attention, il va y aller.
Il fait souvent des sourires coquins.
Il dépendra de mon retour de l'équipe de France demain.
Parce que monsieur va voir l'équipe de France à Lyon, demain c'est Lyon. Et puis mardi soir, il sera à Marseille pour le Chili.
Ouais. Il va peut-être travailler pour certains joueurs de l'équipe de France aussi.
C'est pas sûr.
C'est peut-être
parler. J'ai une émission avec que des stars.
C'est toi qui dors.
Magali Marien, autre star qui réalise ce 100% paillade. Alors là, on est sur une star interplanétaire. Ouais. C'est d'un autre niveau que vous, messieurs. On a également Amandine, autre star, qui est au standard 04 67 58 6000. Vous intervenez quand vous le souhaitez sur le stade, sur les concurrents, sur le Havre, sur Benjamin Psaume et sa nouvelle vie. Voilà, vous appelez quand vous le souhaitez dans cette émission jusqu'à 19h.
100% paillade sur France Bleu Héros. Benjamin Psaume, Bertrand Queneut.
Bon, le sommaire a duré donc la moitié de l'émission. Il reste une moitié à réaliser. Série de questions, messieurs, pour commencer. On va parler de la concurrence qui se profile. Série de questions pour commencer. À tour de rôle, vous répondez par oui, par non. Quelques mots. Vous pouvez ajouter quelques mots, évidemment. Puis on débattra et on va développer ensuite. Clermont, c'est pour toi, Benjamin. Clermont est-il, selon toi, condamné?
Oui.
Juste oui.
Tu m'as dit de pas développer encore.
On développera.
Tu m'as dit de pas développer encore.
Le maintien concerne-t-il toute la seconde partie de tableau, autrement dit jusqu'à Toulouse, qui est actuellement 11e, Julien?
En termes de jeu, pour moi, non.
Ok, ça veut dire que c'est plutôt de la quoi, 13e à la...
Et si on compare avec Strasbourg, par exemple, Strasbourg, je les mets plus dans la lutte pour le maintien quand on voit comment ils jouent. Mmh. Toulouse, pour moi, depuis 2024, c'est beaucoup plus sérieux.
Bon, on va débattre juste après. Trois équipes sont-elles plus en difficulté, Benjamin, que Montpellier sur les dernières journées?
Bah, ça n'est pas facile quand même. J'ai pas vu tous les matchs des concurrents, mais dans la dynamique, Clermont, Metz est un peu rebiffé, Nantes est dans le trou. Bon, ils ont après choc psychologique en changeant Camboiré, mais on est peut-être dans les trois avec Clermont et Nantes.
8 matchs à jouer avec 3 succès, Montpellier se maintient en Ligue 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Julien Castagnera? Autrement dit, ça ferait 35 points.
Je pense que c'est suffisant.
Ouais. Contre Strasbourg, Nice et le PSG, est-ce qu'on a vu les signes d'un maintien malgré les défaites et les mi-temps ratés, Benji?
Oui, bon. Mais...
Oui, mais. On va pouvoir développer d'abord le calendrier qui arrive, messieurs, à tous les deux. Est-ce qu'il vous fait flipper?
Bah, pour moi, non. C'est, là, on a clairement notre destin entre nos mains. Si t'as peur du calendrier alors que tu joues tous tes concurrents directs, autant pas jouer au foot. Enfin, ça ferait plus peur si sur les 8 derniers matchs, t'avais Paris, Marseille, des gros noms. Là, justement, au contraire, c'est que des équipes qui sont à ton niveau ou à peu près de ton niveau. Donc, non, ton maintien, tu iras le chercher tout seul. Moi, je trouve que c'est encore mieux.
Et c'est le cas du FC Lorient qui a un très gros calendrier avec des
équipes. C'est ce que je regardais là.
Du haut de tableau. Quel match vous craignez en particulier, Benji? Est-ce qu'il y a un match que tu crains sur les 2-3 prochains?
Bah en fait, c'est comme je te dis à chaque fois, je crains ou j'attends. Tu parlais de tous les matchs parce que les 3 points à prendre, ils sont bons contre tout le monde, même contre des équipes qui sont peut-être pas de notre championnat. Peut-être qu'il faudra aller prendre ces 3 points à Lens la dernière journée contre Monaco aussi. Mais c'est sûr que cette double confrontation et cette semaine cruciale, comme tu dis, si on a 37 points, on sera peut-être maintenu. On est en train d'expliquer que si on arrive à faire le coup au Havre et en recevant Lorient, en ayant gagné au Havre avec les pecs en avant, la confiance, et on les retape, on serait presque maintenu déjà. Donc c'est vrai que ces deux prochains qui arrivent, on le dit à chaque fois, mais les deux prochains face à des adversaires directs à qui on prendrait, on enlèverait des points, donc on leur ferait très très mal psychologiquement aussi. C'est sûr que ces deux-là, je les attends avec grande grande impatience et c'est cool qu'il y ait une petite trêve avant pour bien les préparer.
Tiens, tout à l'heure, tu as dit, Benjamin, que Clermont, pour toi, était condamné. Oui. 23 points, c'est ça, Clermont?
20 points.
20 points, Clermont. 20 points. Aujourd'hui, c'est Metz qui en a 23. Avec 20 points, c'est fini?
Moi, je pense que oui. Après, il y a combien de juges? Il va te parler de là où je suis pas d'accord, c'est sur les dynamiques. Mais ça voudrait dire ils ont pas réussi. Clermont, ils ont gagné 4 matchs cette saison. Ça voudrait dire qu'en moins 8-9 journées, il faudrait qu'ils en gagnent autant, voire plus. Je pense qu'ils sont condamnés, honnêtement. Je pense que pour eux, c'est terminé. J'ai failli te dire Metz aussi, mais ils se sont requinqués un petit peu à voir. Mais pour moi, Clermont, pour moi, c'est terminé. Et après, j'aurais préféré que Nantes garde son coach. Parce que Camboiré, ça me fait peur dans l'émission maintien. Ça me fait un petit peu peur et je pense que ça va se requinquer. Il a eu la trêve en plus pour bosser avec eux, pour bien appréhender son groupe. Mais ouais, clairement, pour moi, c'est fini.
Mais par exemple, clairement, c'est typiquement un match où tu dois y aller, tu dois aller au stade pour les exploser. Enfin, déjà, vu tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé en première partie de saison, le match à rejouer où tu t'es fait marcher dessus pendant une mi-temps. Pour moi, clairement, notamment, t'es obligé d'aller à Montpied pour aller chercher les 3 points.
Bah oui.
C'est dans tes 3 victoires, celle-là, elle est impérative pour moi.
Oui, celle-là aussi. Elle est impérative. Après, on sait ce qui s'est passé contre eux. Et moi, tu sais que j'ai énormément traversé ce qui s'est passé, et pas sur le premier match contre Clermont, sur le deuxième. Et je m'attendais justement à exactement ce que tu dis, y aller pour leur marcher dessus, les recevoir pour leur marcher dessus, leur montrer qu'on méritait de gagner, et on l'a pas fait. Alors j'espère qu'on a compris.
Moi, je te dis qu'à mon pied, pour moi, là, il faut y aller, avoir envie de les tordre.
Ah ben oui, tu les enterres. Parce que tu les condamnerais limite. Faut voir le classement, le truc, mais peut-être que tu peux les faire descendre peut-être là-bas chez eux.
Tu parlais de dynamique tout à l'heure, Julien, par rapport à Toulouse, que tu ne mets plus dans les concurrents pour le maintien. Benjamin, t'es pas d'accord. Ouais. Tu vas nous dire pourquoi? Quelle est la raison?
Pour moi, c'est que ça joue plus comme une équipe malade. Quand on voit Toulouse en première partie de saison, et Toulouse depuis, pour moi, 2024, c'est pas du tout la même chose. Il y a un truc qui se passe, même au stade. Je trouve, enfin voilà, il y a une vraie ambiance, etc. Je trouve que moi, comment Toulouse joue, ils jouent pas avec la peur, ils jouent pas en défendant, ils jouent avec des ambitions, etc. Pour moi, c'est dans ce sens-là que je dis, mentalement, etc., je pense pas qu'ils jouent le maintien.
Toi, Benji?
Ben, c'est peut-être ça leur problème. C'est peut-être ça leur problème, s'ils commencent à se dire qu'ils jouent pas le maintien. J'ai regardé leur match contre Lyon où ils démarrent très très bien, ils arrivent à mener, ils se font rejoindre, après tout s'est écroulé d'un coup. Je suis d'accord avec toi, Toulouse de tous est peut-être l'équipe qui a la meilleure forme ou la plus séduisante, à la rigueur. Mais ça veut pas dire, c'est pas pour ça que pour moi qu'ils vont pas jouer le maintien. Comme je le dis depuis un moment, Bébert, un maintien, ça peut se jouer sur une décision d'arbitre, sur un corner, sur une VAR. Et Toulouse, ils sont pas à l'abri, ils sont qu'à 3 points de la meute. C'est compliqué quand t'es chassé. C'est très compliqué, c'est plus facile d'être chasseur que chassé dans ce championnat. Toulouse, on sait qu'on va les jouer, ils vont jouer aussi des gros. Donc tant mieux pour nous s'ils se disent que c'est la plus belle équipe qui vont se maintenir, ça voudrait dire qu'ils vont être en grand danger.
Après regarde, je pour aller dans le sens de Julien Castagnera sur les 7 dernières journées de championnat, Toulouse est 7e de Ligue 1.
Oui, mais
non, mais c'est globalement, franchement, quand on voit la première partie de saison, je pense que les supporters de Montpellier rigolaient un peu. Mais là, clairement, depuis 2024, la Ligue Europa, et franchement, ils ont fait des très gros matchs. Je trouve que cette équipe, voilà, il se passe quelque chose. Le coach, pendant très longtemps, on parlait de licencier, etc., de le virer. Maintenant, on n'a plus du tout ce débat-là. Et déjà, je trouve qu'en fait, rien que le fait de plus remettre en question le coach, c'est déjà un grand pas pour moi vers le maintien, et en tout cas vers une équipe qui tourne mieux et qui est en meilleure posture, on va dire, pour arracher son maintien.
Ouais, non, c'est sûr. Mais après, ils jouent calendrier pas facile aussi pour Toulouse. Ils ont les gros à jouer aussi. Hein.
Le Attention. Prochain match pour nous, c'est le Havre. On ira rendre visite à François Manoury qui est en ligne avec nous, confrère de France Bleu Normandie, qui commente le HAC. Salut François.
Bonsoir Bertrand, salut à tous.
Ça fait plaisir d'entendre salut. François Manoury, mon ancien collègue qui commande donc pour France Bleu Normandie les matchs du HAC cette saison et depuis quelques saisons. Le Havre barragiste, si on prend les 10 dernières journées, 8 points pris, c'est un de plus que Montpellier. Et le Havre avant-dernier, si on prend les 5 ou les 7 derniers matchs en Ligue 1, ça va pas fort du tout côté havrais, François.
Non, la dynamique n'est pas bonne et puis le HAC reste sur une prestation désastreuse à Clermont. Alors effectivement, c'est 5 défaites sur les 6 derniers matchs et seulement 2 victoires sur la phase retour. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Pendant de longues semaines, 2 joueurs importants du milieu de terrain ont été absents. Dalair Kouzaïef qui a pris 4 matchs de suspension après son rouge à Strasbourg en Coupe de France et Oussama Targhalin qui lui a été blessé. Il sera d'ailleurs suspendu hein, face à Montpellier, puisqu'il a été expulsé à Clermont. Et au milieu de terrain, le HAC s'est retrouvé décimé, si bien que Lucas Elsner a dû a sursolliciter certains joueurs, je pense notamment à Yacine Keshta. Il faut pas oublier non plus que le HAC, si je ne dis pas de bêtises, est le seul club de Ligue 1 à ne pas avoir recruté au mercato d'hiver. Il n'y a pas eu de renfort et l'équipe s'est même affaiblie puisque Nabil Alioui est parti en Turquie. Exactement. Il y a le problème Bayo, qui est aussi en crise de confiance. Il n'a pas marqué depuis le début de l'année 2024. Un peu pris chahuté par une partie du public quand il est sorti en cours de jeu lors des 2 derniers matchs au Stade Océane. Vous avez dû voir cette altercation aussi entre Bayo et au Péri, exactement. Il a fallu que Sangonté intervienne pour éviter que ça dégénère. Donc, Bayo en crise de confiance. Et puis, s'ajoute à cela une défense qui est beaucoup moins hermétique que durant la première partie de saison.
Ouais, parce que la phase aller était quand même prometteuse. 12e après 17 journées. À domicile, François, c'est quand même pas trop mal. Si on prend l'ensemble de la saison, 10e du championnat à domicile avec 5 succès. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre, pour le coup, au Havre, entre domicile et extérieur?
Ah, clairement, à l'extérieur, le HAC est l'équipe qui a pris le moins de points ex aequo, je crois, avec Clermont et Marseille. En revanche, au Stade Océane, à part Lille, vous avez donné clairement la leçon. Aucune équipe ne s'est réellement montrée supérieure. Alors, il y a eu des défaites, mais des défaites imméritées, que ce soit contre Rennes et Reims, pour ne citer que les exemples les plus récents. Il y a eu ce match face au PSG. Le PSG gagne 2-0 dans des circonstances, c'est vrai, particulières, parce que Donnarumma s'était fait expulser très très tôt dans la partie. Mais le HAC avait bougé. Les Parisiens avaient même terminé la rencontre avec un taux de possession supérieure à Paris. Ça n'arrive pas tous les week-ends. Donc oui, il y a clairement une différence entre le HAC à domicile et le HAC à l'extérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 8 derniers matchs de la saison, le HAC en jouera 5 au Stade Océane, dont 4 face à des concurrents Montpellier, Nantes, Metz et Strasbourg. Donc il n'y a pas non plus le feu au lac, pas de panique, en tout cas dans les rangs à vrai.
Il n'y a pas le feu au lac.
Excellent. Tu l'as sorti celle-là quand tu commandais.
C'est un titre pour Benoît Donquel à Paris Normandie. François, il y a
Ouais.
Ouais, vas-y.
Bah, je voulais juste aussi ajouter une chose très importante, c'est la différence de but. Parce que tout va compter dans ce championnat. Et le HAC et Montpellier, parmi les équipes qui luttent pour le maintien, sont les deux équipes qui possèdent la différence de but la moins défavorable. Alors c'est moins 7 pour le HAC. Clermont, c'est moins 24. Metz, c'est moins 16, moins 17 pour Nantes et moins 14 pour Lorient. Donc on peut considérer qu'il y a un demi-point en plus pour le HAC. Montpellier, je crois, c'est moins 9. Moins 7, moins 8, moins 9.
On a pris cher.
Ouais, on était à moins 5 et puis il y a eu un petit accident le week-end dernier.
Un petit.
Il y a eu des gros coups. On parlait de domicile. C'est le Stade Rennais qui avait été accroché. Il y a Nice qui a été battu quand même au Stade Océane. C'est vrai que cette équipe, elle a surpris des gros sur les dernières semaines.
Oui. Alors contre Rennes s'était imposé, mais très honnêtement, c'était une victoire
très serrée.
Voilà, à l'arrache. Voilà, exactement. Il y a eu un match très très abouti contre Lyon également. En janvier, Oui, il y a eu des prestations vraiment de bonne facture. Un très bon match, le dernier contre Toulouse. Je vous entendais parler de Toulouse il y a quelques instants. Les Toulousains, ils étaient arrivés au stade Océane en claquette. Hein. Ouais, je peux vous le dire. Un large complexe de supériorité. Ouais. Le HAC avait livré un très bon match. Alors, une victoire étriquée, 1-0, comme très souvent, parce que marquer des buts, c'est un peu compliqué pour le HAC, mais une victoire qui ne souffrait aucune contestation. Et puis, vous n'avez pas connu ça, Bertrand ? Mais il y a une ferveur au stade Océane, un engouement, plus de 20 000 spectateurs en moyenne. Je pense qu'il y en aura encore plus de 20 000 pour Montpellier. Et ça transcende l'équipe. Ça se ressent, c'est palpable.
Merci de rappeler que j'ai pas connu ça, c'est sympa.
T'as connu des chasseaux, toi.
Non, j'ai pas connu des chasseaux. Je suis arrivé, c'était déjà le stade Océane. Mais c'est vrai que c'était la Ligue 2 aussi. Il y a eu cette ferveur sur quelques matchs, celui de barrage à l'époque contre Bourg-en-Bresse. Mais c'est vrai que là, c'est toute la saison. Là, c'est magnifique ce qui est en train quand même de se passer depuis la saison de la montée avec Lucas Hesner. C'est quand même voilà, c'est quand même extraordinaire.
Le contraste est saisissant. Hein. Ouais. Le contraste est saisissant et c'est surtout totalement inattendu. Hein. Qui s'attendait la saison passée à ce que le HAC monte en Ligue 1 après 14 ans d'attente. Hein. 14 ans, c'est long.
Tu parlais, François, tu parlais, François, de Targaline tout à l'heure qui sera absent, donc suspendu quand Montpellier va se présenter. T'as dit il a été blessé deux fois, hein, deux grosses blessures, non, c'est ça, dans la saison. Est-ce que c'est vrai? Enfin, c'est vraiment déterminant, c'est un élément déterminant, Targaline, et c'est donc une bonne nouvelle pour Montpellier ?
Je pense. Alors effectivement, si on se fie à son temps de jeu, on peut se dire, bah finalement, il n'a pas tant joué que ça depuis le début de la saison. Mais oui, c'est un élément important parce que c'est un joueur technique qui sait dicter le tempo d'une rencontre, qui sait accélérer le jeu quand il le faut, qui sait poser le ballon. C'est un petit peu presque le dépositaire du jeu à vrai. Tous les ballons, ou presque, transitent par lui. Et moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup ce joueur. Quand il est arrivé au HAC, personne ne le connaissait. Et il s'affirme. Et je pense effectivement que pour Montpellier, son absence, bah oui, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et d'ailleurs, moi, je peux vous dire que Targaline, il a joué une fois à Grammont, parce que c'est un joueur qui est passé par Marseille. Hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises.
Ça,
et avant ça, il était à l'Académie Mohamed VI à Rabat sous les ordres de Johan Louvel. Ils avaient fait un match amical contre les U19 de Frédéric Garny ici à Montpellier, sa dernière année au Maroc, et ils avaient joué à Grammont et il était totalement inconnu, et ensuite il fait partie des joueurs sortis de l'Académie Mohamed VI, qui est une grosse académie à Rabat qui sort de très bons joueurs en Europe, et il en faisait partie, passé par Marseille et ensuite parti au Havre. Donc François, merci beaucoup d'être venu nous parler de la dynamique havraise ce soir, qui est pas bonne, et on espère que ça va durer au moins jusqu'à lundi d'après.
Il est tiraillé. Il veut que Montpellier gagne, mais il va se prier pour que le Havre se sauve après aussi.
C'est normal.
Il n'a pas coupé le cordon.
Moi, je pense que Montpellier et le HAC seront encore en Ligue 1 la saison prochaine.
C'est vrai, tu penses objectivement, qu'est-ce qui te fait dire ça?
Objectivement, ouais. Bah, par exemple, Clermont, moi je suis d'accord. Clermont va, pour moi, être déjà condamné. Moi, Nantes, même si Comboiré revient, c'est la crise.
Et pourtant, je peux vous dire que ça lui fait mal aux fesses de dire ça. Je peux vous le dire.
Ouais, ça me fait mal au cœur, effectivement. Mais Nantes va jouer son prochain match contre Lyon à huis clos. La tribune Loire sera fermée face à Rennes. Ils vont jouer six équipes qui jouent l'Europe sur les 8 derniers matchs. Hein. Ouais. Et puis, le retour de Comboiré, très honnêtement, quel sketch! C'est risible. Donc ça me fait mal au cœur, je l'avoue, mais je vois pas comment Nantes pourrait s'en sortir. Metz, ça paraît quand même Metz, super faiblard également.
Mais c'est un gros calendrier aussi.
Et puis moi, je ferai pas l'erreur de Kita le jour où je shooterai Benjamin Psaume dehors. Je peux vous dire qu'il reviendra pas, ça sera fini, terminé.
Ça, la méchanceté. Voilà, il était aussi méchant en Normandie comme ça ou pas?
C'était encore pire.
Benji est sur autre chose maintenant.
Oui, sur une autre planète. Bon, François, merci beaucoup. Dans une semaine, on se voit au stade Océane. J'espère que je serai bien accueilli avec petit buffet tranquillement.
Tu crois
que
tu vas être ovationné un petit peu ou pas?
Non, mais un buffet, ça me suffit.
Au stade Océane ou pas? Parce que moi, j'ai jamais fait.
Le stade Océane, ouais, c'est bien, c'est un beau stade.
Pas en fait.
On va parler d'un autre stade. Ben, j'aimerais bien qu'on ait le stade Océane à Montpellier parce que le stade qu'on a pour le moment, c'est pas vraiment le stade Océane.
C'est Océan, mais c'est
le stade Océan, ouais.
Bon, merci beaucoup François, à très vite, on t'embrasse.
Moi aussi.
Merci.
François Manoury, donc notre confrère de France Bleu Normandie. La déclat de TJ, on va en parler dans un instant. Vous aviez autre chose à ajouter sur les concurrents, sur Le Havre? Non, c'est bon, messieurs, vous avez fait le tour, vous avez dit tout ce que vous vouliez.
C'était complet, je pense.
Ouais, je suis un petit peu plus inquiet que notre ami sur le retour de Camboiré. Je suis un peu plus inquiet sur le choc psychologique avec lui.
Bon, on verra ça. La déclat de la semaine à présent, ce n'est pas que je préfère jouer le maintien. On parle de maintien. Ce n'est pas que je préfère jouer le maintien plutôt que le ventre mou, mais je préfère quand même quand il y a de l'enjeu plutôt que quand il n'y en a pas. Thierry nous aurait dit, je voulais lui poser. Ah ben bah il arrive, regardez la rosta.
J'ai vu Thierry, la moustache. Ah, ça va, il a réparé la moto.
Il est en retard, mais il est là, la moto est réparée. Tu peux parler, Thierry, vas-y, exprime-toi.
Oui, bonsoir à tous. Je m'excuse pour ce retard, effectivement. Quand on s'improvise un mécano et quand t'es pas mécano, faut pas toucher. Tu vois, quand t'es pas footballeur, faut pas tester.
Ouais, il commence comme ça. Alors, j'allais dire la main de mon cher.
Thierry, tu vas commencer parce que regarde, c'était pour toi la question. La déclat de la semaine, c'est pas que je préfère jouer le maintien plutôt que le ventre mou, mais je préfère quand il y a de l'enjeu plutôt que quand il y en a pas. Qui a dit ça?
C'est un joueur.
Ouais.
Ah putain, tu me prends de court.
Joueur de Montpellier.
Ouais. Moi j'aurais dit non, c'est pas lui, Sagnan.
Putain, TJ Savanier quand même. TJ Savanier a dit qu'il préférait, en gros, donc je traduis parce qu'il y a un peu tout dans cette réponse, mais ouais, il dit qu'il préfère les matchs en jeu plutôt que les matchs qui n'en ont pas. TJ Savanier, même si évidemment nous les matchs en jeu, c'est les matchs pour le maintien, c'est pas les matchs pour jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Alors c'est bien, on a trois casquettes dans ce studio maintenant que Thierry vient d'arriver, on en a même quatre avec celle de mécanicien. On a donc l'ancien joueur, on a le journaliste et on a le supporter.
Toi aussi.
Rapidement, tour de table. Ouais, mais je suis le journaliste. Toi, je t'ai mis comme mécanicien.
On te respecte pas.
Vous préférez quoi? Une fin de saison avec de l'enjeu, quitte à ce que ce soit le maintien, ou une fin de saison tranquille où on ne joue plus rien? Thierry, tu préfères quoi en tant que supporter?
Non, mais moi, je préfère être tranquille, loin de la zone rouge, entre guillemets, ou orange, pour le barragiste, plutôt que de serrer les fesses tous les week-ends, pour savoir si tu vas prendre 2-3-0 ou si tu vas gagner, tu vas prendre 1 point, 2 points, 3 points. Je préfère être à la place de Toulouse ou enfin ceux qui jouent le ventre mou, tant pis. Et en plus de ça, c'est couillon parce que ça rapporte de l'argent au club à la fin, donc ça sert à rien de dire ce genre de choses, je pense.
Bon, Thierry préfère se faire chier jusqu'à la 34e journée. Benjamin Psaume, ancien joueur, lui, il a un avis différent. Il est comme TJ Savanier, de toute façon.
Il en a joué des mentiers.
Et puis il arrive que dans la rue, on le prenne pour TJ Savanier, donc la
réponse sera pas sur le terrain.
Non.
Ouais, c'est vrai, mais on me l'a encore dit il y a pas longtemps. Bien sûr, TJ, pas encore plus TJ, mais bien sûr qu'un joueur préfère jouer des matchs en jeu qu'un ventre mou. Mais par contre, je suis d'accord, en tant que joueur, j'adorerais ça. Mais par contre, tu me dis, avant la saison, tu me dis où tu vas te maintenir peut-être à la dernière journée, mais c'est pas sûr, tu vas sûrement descendre, tu passes une saison galère. J'ai envie de te dire que TJ, oui, préfère jouer des matchs en jeu. Mais là, aujourd'hui, TJ, il aimerait bien jouer des matchs qui servent à rien. Parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas le trouillomètre à zéro. Ça veut dire que les semaines à Grammont, ça se passe bien. Ça veut dire que on est tranquille parce que il y a aucune garantie qu'on se maintienne. Alors peut-être, ce sera encore plus beau, par contre, le débat qu'on aurait pu faire. Je l'ai vécu. Par contre, on se maintient la dernière journée à Lens parce qu'on va aller chercher un truc et on se maintient. Alors là, à 23h, TJ va te dire, j'ai une émotion que j'ai jamais vécue. Bien sûr. Mais là, on peut pas dire ça. On peut pas dire, on préfère jouer le ventre mou parce que ça voudrait dire qu'on est tranquille. Et comme il dit, il y a des places, il y a de l'oseille à aller chercher en fonction du classement. Mais on peut pas se permettre comme ça de... Non, mais c'est vrai, Bébert.
Je suis d'accord.
Après, moi, mes meilleurs souvenirs dans ma carrière, c'est les matchs de fou. C'est les matchs où tu joues la survie d'un club sur un match. J'en ai fait. C'est mes meilleurs souvenirs. Parce que ça s'est plutôt bien terminé à chaque fois. Mais je me dis, par contre, si ça, on avait perdu, on descendait ou je sais pas quoi, ça aurait été mes pires souvenirs. Donc on peut pas jouer à la roulette russe.
Déjà de se rappeler Cazerie ou Nordin quand on les a récupérés à Grammont, qu'on leur a parlé de ça, ils étaient un peu encore à la petite cuillère, lorsqu'il y a 3 mois.
C'est vrai.
Et le fait de descendre à un club aussi historique que Saint-Etienne, ça leur avait fait vraiment mal au cœur.
Alors, il y a l'avis évidemment de Thierry, supporter, il n'a pas envie de devoir serrer les fesses jusqu'à la fin de saison. Il y a Benjamin qui adore, comme TJ, les matchs en jeu, mais qui préfère quand le match est terminé, que ça s'est bien passé. Et ça peut en effet procurer évidemment des émotions aussi folles qu'une montée, qu'une Coupe d'Europe.
Plus folle.
Et ensuite, il y a les observateurs et les journalistes comme Julien et moi, et nous,
Crois, Julien, qu'on préfère les matchs à enjeu et qu'on préfère jouer un maintien plutôt que de commenter des purgeasses jusqu'à la 34e journée.
Professionnellement, ça n'a rien à voir. On l'a vécu, au premier mandat de Michel Darzacarian, où pendant, aller jusqu'à la 25e, 26e journée, on croyait un peu à l'Europe sans vraiment se projeter parce qu'on savait qu'il y avait des carences, etc. Et puis après, au bout de la 28e, 29e, il y avait 10 journées où tu jouais pour rien, où tu tombais souvent sur des purges, t'avais quelquefois des bons matchs. Et au final, on finissait 12, 13e. Tranquille, on était large sur le maintien, mais au final, les joueurs ne se rendaient pas forcément compte, ou en tout cas au club, pas tout le monde se rendait compte, justement, comme Thierry l'a dit, qu'il y a de l'argent à aller chercher, qu'une 8e place, ça vaut mieux qu'une 12e place.
Par contre, je me rendais bien compte des 4 heures d'antenne que je faisais sur les matchs en bois.
Non, mais on est d'accord.
D'engouement en termes d'audience, etc. Les gens, si le club est main nue, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde au stade, les gens ils diraient, ça ne sert à pas grand chose, à part une grande affiche, mais je sais pas, à Montpellier-Le Havre, si on était déjà main nue, les gens viendraient encore moins au stade.
Ouais, non, c'est sûr. Venir.
Après, ça aurait été encore plus fou d'aller chercher une qualif en Coupe d'Europe, même la plus petite à Lens, comme tu dis, plutôt que d'aller chercher un maintien, quoi. Et là, t'aurais eu des matchs en jeu, et là, tu te serais régalé, là, tu serais allé chercher des places. Là, oui, ça vaut le coup comme des matchs en jeu, et de vibrer pour ça.
Tu verras, Titi.
Moi, je vibre pas, là, moi.
Non, mais là, oui, mais tu verras que si jamais tu dois aller à Lens pour te maintenir, t'es obligé d'aller gagner à Lens et tu gagnes.
Je vais aller faire un pèlerinage à Lourdes, je vais aller maintenir.
Là, mais je vais te dire qu'en termes d'émotion, je vais te dire que ça va être une émotion que je pense depuis celle du titre, ça va être la plus belle émotion de ta vie parce que je te parle si jamais c'est je voilà
ou même ce que nous dit par exemple Tom là il dit ironiquement moi ce qui me fait rêver c'est le match de barragiste. Non mais franchement au secours.
Après c'est le but de ce débat c'est justement de voir un peu au-dessus des supporters. Bien sûr qu'en tant que supporter tu préfères là à un moment donné surtout quand tu es 15-16e que tu as 3 points d'avance sur le barragiste, bien sûr que là tout le monde a envie d'être
parce que nous les supporters on est petits, on est rien, nous il y a que vous les observateurs qui avez le grand. Ça y est, c'est bon, on a compris.
C'est extraordinaire, le mec il est en retard et en plus
il envoie les pinceaux.
C'est extraordinaire. Il s'est pas réparé 3 injecteurs et puis il me dit ça.
C'était la pipe d'admission.
Le débat est intéressant. Le débat est intéressant parce que je vous dis, en termes d'émotion, si jamais on se maintient sur un match, un truc à la dernière ou avant-dernière journée, par contre, on va s'en rappeler pendant des années. Et souvent, c'est ça que je voulais dire quand on a lancé le débat, c'est super important, Bébert, et ça, il faut insister là-dessus. Quand tu passes, c'est humain, c'est français, c'est tous les groupes, c'est tous les vestiaires. La saison dernière, pour moi, on n'a pas joué le maintien réellement puisqu'on s'est sauvé vite.
À la fois, on s'est sauvé vite et puis en plus, la saison encore d'avant, on l'a pas joué non plus parce qu'on avait fait une telle phase aller que n'avait pas fait que tu jouais le maintien.
Je te garantis que si on garde à peu près le même effectif et si on se maintient sur un truc à l'avant-dernière journée ou la dernière journée, on se maintient, on s'est fait très très peur. C'est humain depuis toujours, tous les vestiaires que j'ai fait, la saison d'après, tu fais une très belle saison. Tu fais une très belle saison. Brest en est l'exemple. Il y a des contre-exemples. Si tu te renforces un peu, parce que je sais ce qu'on va me dire. Mais attends, Lorient, il joue le maintien chaque année. Ça dépend les clubs. Mais nous, avec notre effectif, avec les joueurs qu'on a, ils auront tellement peur dès la préparation l'été prochain. Ils auront tellement peur de revivre ce qu'ils ont vécu là et tout. Je te garantis que la saison prochaine, ça fera une belle saison.
Vas-y.
Non, excuse-moi.
Là où je suis pas d'accord avec Benji, c'est sur en termes d'émotion. Moi, j'ai connu la montée contre Strasbourg. Là, oui, c'était de l'émotion avec les cages tordues en M et tout. J'ai vibré.
T'as déjà vécu un maintien dernière journée au MHSC Titi ou pas?
De souvenirs, j'ai déjà vécu des saisons comme ça, de galères où tu te bats de longue et tout.
Mais il est descendu derrière, donc.
Et après, oui, en plus, des fois, on est les trois quarts du. Enfin, chaque fois, ou quasiment, on est descendu.
Mais du coup, t'as pas d'émotion.
Mais qu'est-ce qu'on essaye de dire, Titi, depuis toujours, et c'est ce que les supporters nous disent, et c'est ce qu'on a peur. Qu'est-ce qui se passe si le club descend? Parce que je vais dire que c'est la mort du MHSC, mais sportivement, déjà pour remonter, tu vas galérer, tu vas passer des années en Ligue 2. C'est vraiment le feu. Comme je t'ai dit, peut-être qu'il va ramener les salariés, Laurent Nicolin, la veille d'aller à Lens, il va peut-être ramener les salariés et dire bon, les gars, comme ils nous l'ont fait, si on descend, on perd 20, 30 millions, on sait que c'est compliqué, on perd les droits télé. Peut-être qu'elle, elle, au chômage, elle perd. Et en fait, quand tu joues un match et qu'il y a des enjeux extérieurs comme ça, alors je comprends, le match de la montée, c'est génial, tu montes en Ligue 1. Mais là, je te parle d'un match où peut-être ton club, il plonge et peut-être ton club, il retrouvera jamais l'élite. Donc c'est pour ça, tu verras, en termes d'émotion, Titi, je ne le souhaite pas. Mais je souhaite qu'on se maintienne. Mais si on se maintient à Lens, tu vois qu'en termes d'émotion, tu vas sauter autant que la montée.
Julien.
Non mais il y a même, regarde, à Nice, c'est une petite victoire et l'explosion de joie à la fin du match.
Tu le vois, t'as vu TJ, comment ils se sont mis quand ils ont gagné à Nice 3 points parce qu'ils ont peur. Ils ont peur et tout, tout le monde a peur.
Une petite victoire mais des grandes émotions.
18h35, messieurs, on se retrouve dans un instant pour parler du stade, pour parler des filles, également les féminines de Montpellier, puis pour parler de la vie rêver que va connaître désormais
à tes côtés. À tes côtés.
Trier, c'est agir pour notre planète. En triant, nous réduisons le volume de notre poubelle grise. Ce n'est pas tout. Moins de déchets, c'est aussi réduire les coûts de traitement, favoriser le recyclage et la valorisation. Alors chaque geste compte. N'attendons pas. Trions dès aujourd'hui pour réduire notre impact sur le changement climatique.
Retrouvez tous les bons gestes de tri sur montpellier3m.fr. Ceci est un message de Montpellier Méditerranée Métropole.
Le projet de contournement ouest de Montpellier prévoit de réaménager à 2x2 voies les axes existants entre l'A750, Juvignac, Saint-Jean-de-Védas et l'A709. Déclaré d'utilité publique, le projet permettra d'assurer un meilleur accès à Montpellier depuis les communes de l'ouest et faciliter la connexion avec les transports en commun. Retrouvez toutes les informations concernant le projet et son avancée sur le site dédié www.contournement-ouestmontpellier.fr.
Un petit point circulation à 18h36, et bien rien de particulier à vous signaler, si ce n'est les difficultés habituelles aux entrées d'agglomération et sur les artères importantes de Montpellier et sa périphérie. Voilà, on va pouvoir retrouver.
Ici, on parle football.
Voilà, j'aimerais rendre hommage à Loulou, bien sûr, mais évidemment tout ce peuple payadin, tous ces supporters, cette ville qui était en ébullition en 2012.
Chaque lundi et vendredi dès 18h, c'est 100% payade sur France Bleu Héros.
18h36, le stade Nicolin, énième rebondissement, vous avez suivi ça, Aude à la mer à la poubelle désormais, Gramont hors de question. Voilà que le parc Expo est sorti du chapeau, c'est ce qui a été révélé dans un papier dans le JDD où Laurent Nicolin s'est exprimé ces derniers jours. Le président a deux doigts d'ailleurs de jeter l'éponge, nouvelle menace, qui reconnaît ce président que la situation sportive évidemment n'arrange rien en ce moment pour le dossier du futur stade, qui tient à ses bureaux, ses restos, ses boutiques, alors qu'on avait dit à un moment donné que peut-être Aude à la mer, il fallait revoir la copie à minima. Bah, visiblement, c'est pas ce qu'il souhaite, parce que lui, il tient à tout ce qu'il y aura autour. Il dit qu'un stade lambda ne sert à rien. Ce nouveau rebondissement, le Parc Expo, ça vous inspire quoi, Julien Castagnera, Thierry ensuite,
franchement, moi, je suis déjà fatigué. Alors, j'imagine Laurent Nicolin de suivre tout ça, tous ces événements, les oui, les non, les annulations. Franchement, j'ai l'impression que c'est le combat de la dernière chance. Et si ça se fait pas, je pense qu'on va devoir rester à la Mosson.
Thierry.
Ouais, à peu près pareil que Jules, je suis fatigué, idem, Laurent Nicolin, je sais pas comment il fait pour pas aller tous les insulter en disant c'est bon, vous m'avez bandé, vous et votre stade, ben voilà. Je sais pas où ça va aller, je sais pas l'issue de ce problème-là, je sais même pas si on va avoir un nouveau stade ou pas, je sais pas comment ça va finir, j'espère qu'on aura un nouveau stade, j'espère que Laurent Nicolin il aura ce qu'il veut, comme il le veut, parce que clairement un stade où t'as rien à faire, où t'as rien dedans, ben, de nos jours, je pense que c'est pas viable.
Évidemment, il n'y a rien qui est fait. Hein. C'est une nouvelle possibilité. C'est une collectivité qui a proposé ça, qui a soumis l'idée, en tout cas, à Laurent Nicolin. Il faut maintenant travailler, mais ça va prendre encore des mois si ça doit se faire. Il rappelle dedans, Laurent Nicolin, on l'a rappelé 100 fois dans cette émission, qu'il a déjà dépensé 4 à 5 millions d'euros dans les études, pour le moment jetées par les fenêtres. Si ça s'arrête à partout là où c'était prévu, c'est-à-dire Cambacérès, Aude à la mer, Gramont, toutes les idées qui ont été émises, pour le moment, si elles sont à la poubelle, cet argent a été jeté par les fenêtres. 4 ou 5 millions d'euros, c'est pas le budget de Montpellier, mais c'est quand même un sacré transfert. Hein. C'est le prix de Accor Adams, par exemple. C'est aussi le salaire de Julien Castagnera à Made in Foot chaque année.
C'est le cachet de Benjamin Psaume
dans sa future vie. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire ce soir, c'est qu'il y a des discussions, des réunions entre collectivités qui sont entamées. Il y a des discussions, des échanges, régions, métropole de Montpellier, pour voir ce qui est possible de faire ou pas. Le Parc Expo doit être de toute façon restructuré. C'est là que Laurent Nicolin pourrait éventuellement bénéficier de l'abattage, je sais pas comment on dit ça, la démolition de certains halls, et donc éventuellement y faire son stade. Faut voir comment, faut voir quand, faut voir à quelle échéance, faut voir si c'est possible, faut voir par rapport à l'environnement. Enfin, il y a plein de choses évidemment, et je crains que ça va prendre, que là on est, si c'est ça, on repart pour des années.
L'idée c'était 2024, grosso modo, c'était pour les 50 ans du club. On en est loin. Là, il y a pas une pierre qui est posée, on sait même pas le lieu. Donc là, on va repartir pour 3, 4, 5 ans selon les études, etc. Combien de temps ça prend, retrouver le budget aussi, parce qu'il y a toujours cette histoire avec la Banque des Territoires, etc. On est encore très loin du nouveau stade.
C'est 4, enfin
Désolé de le dire, c'est catastrophique en fait. C'est une catastrophe et je jette pas la pierre à Laurent Nicolas en disant
mais
ça,
non,
pas du
pas
tout.
Non, ben là,
c'est catastrophique ce dossier. J'ai souvent rappelé dans cette émission qu'en plus construire un stade malheureusement en 2023 ou 2024, c'est d'autant plus compliqué. Et là aussi, je n'accuse personne en disant ça parce que ce sont des sujets importants et l'écologie est un sujet important. Mais vous vous rendez bien compte qu'en 2024 construire un stade, c'est compliqué quand on n'a pas l'argent, c'est-à-dire comme Laurent Nicolas qu'on est obligé de faire appel à des prêts, de faire appel à des partenaires, c'est compliqué parce que l'écologie aujourd'hui a une part importante et que eh ben, bétoniser forcément que c'est compliqué, même si Laurent Nicolas annonce depuis très longtemps que ce sera un stade vert, vertueux et qui va tout faire pour. Mais tous ces sujets complexifient évidemment le dossier. Et puis il y a l'argent public. On est en 2024. On demande à chacun de faire des économies. On est les premiers concernés aussi hein, dans le service public. Et donc voilà, tout chaque euro est compté et ça devient très compliqué. Faut vraiment se lever de bonne heure et avoir vraiment du courage aujourd'hui pour lancer un tel dossier. Surtout de l'ampleur du stade que vous voulez faire Laurent Nicolas, qui est quand même un projet ambitieux avec le musée, les restaurants, etc., et qui n'est pas le stade de Brest. Je vois que certains parfois comparent en disant mais Brest, il est en train de sortir de terre. Oui, mais c'est pas la même chose parce que là-bas, parfois il y a du partenariat public-privé, parfois c'est un stade moins important. Là, c'est différent, c'est un autre dossier.
Et Brest a eu aussi des difficultés à le faire sortir de terre. Hein.
C'était
pas, c'est pas un projet qui a un an ou deux ans. Après, même globalement, Bertrand, quand on voit les images de la Mosson, là, j'ai envie de dire, tout le monde est un peu choqué parce qu'en fait, à chaque fois qu'il pleut, c'est ce qui se passe. Hein. C'est pas que de cette année.
Ouais.
En vrai, c'est la honte, c'est pas à la hauteur du club de Montpellier, c'est pas à la hauteur de ce qu'a fait Loulou pour ce club et que ce que fait Laurent. À un moment donné, voilà, c'est soit on fait quelque chose pour un nouveau stade, soit par contre là, la mairie va falloir aider le club à vraiment le rénover. Mais même ça, je sais même pas si ça sera suffisant.
Eh ben justement, en attendant, c'est donc à la Mosson qu'on est implanté. Certains d'ailleurs, faut le dire aussi, aimeraient que la Mosson soit rénovée. Il y a des voix qui se font entendre dans ce sens-là. Même si Laurent Nicolas a toujours dit, je mettrai pas un euro dans ce stade de la Mosson, ça l'intéresse pas jusqu'à présent. Et comme c'est toujours bien d'avoir des avis extérieurs, écoutez celui exprimé par Bruno Salomon, notre confrère de France Bleu Paris.
Il a envoyé sévère.
Ah, mais c'est intéressant aussi de voir comment c'est perçu à l'extérieur, que parce que nous, on va à la Mosson en permanence, on s'y est fait, on a nos habitudes, alors oui, on se plaint de plein de choses, mais lui, il le voit deux fois par an. Et il est venu, Bruno Salomon, dimanche dernier, c'est celui qui commente les matchs du PSG sur France Bleu Paris, et lundi soir, 24 heures après, dans Tribune PSG, c'était pas un titre de film comme on fait parfois qu'il a choisi, mais alors il a sorti la sulfateuse. Écoutez.
Je maintiens quand même que Montpellier n'a strictement plus rien à faire en Ligue 1 en termes d'infrastructure.
Non mais sérieusement, je crois qu'on a compris. Bon, je crois que là, c'est bon.
C'est vrai. Mais
attendez, est-ce que
catastrophique.
Officiellement, le stade ça s'appelle pas le stade de la Mosson France 98 parce qu'il avait été pas rénové depuis 98.
Ouais, ça fait 26 ans en fait et ils n'ont rien touché et ils mettent à peine 500 000 euros dans le stade pour à peu près le tenir. Mais c'est une catastrophe. Je vous assure.
Ils ont un nouveau projet de stade.
Oui, mais qui est bloqué.
Louis Nicolas qui est complètement bloqué.
Voilà. Qui est complètement bloqué, qui n'avance pas, et je peux vous assurer, tu peux pas continuer comme ça avec un stade pareil. Enfin, ça a des standards de club de national, voire de national 2.
Commentaire ultra sévère de Bruno Salomon. Le stade, on le sait, prend l'eau. Le stade, on le voit, prend cher. La métropole met des sous pour le maintenir en ville. On parlait, mais pas des millions évidemment, puisqu'il est toujours question de déménager. Même si on le rappelle et il l'a rappelé, c'est 500 000 euros par an pour l'entretien hors pelouse, et la pelouse sera refaite. La métropole, à la demande de Michel Derzakarian, on s'en souvient en début de saison, la pelouse sera refaite en intégralité, ça va coûter bonbon cet été. Benjamin Psaume, pareil, sentiment de lassitude dans ce dossier.
Oui, j'ai même plus. Après, tu disais, j'ai eu un rigolo, mais j'ai même plus envie d'en parler de ça parce qu'on est en état d'urgence. En fait, on est en état d'urgence. On a dit, c'est que le sportif qui prime, parce que bien évidemment, on peut vous faire croire ce qu'on veut, mais le sportif va influer peut-être aussi sur la suite des événements et sur la construction d'un nouveau stade. Et on est en état d'urgence. Et j'aimerais, alors Laurent Nicolas, le pauvre, il est sur tous les dossiers, mais il doit mal dormir en ce moment parce que le stade, il prend que des bad beats, que des mauvaises nouvelles. Et il a une équipe d'un mois et demi, dans deux. Bad beat, c'est en termes de poker.
Ah d'accord.
C'est quand tu es dans un mauvais rush, t'es pas bien.
T'es joueur de poker, toi.
Ouais, qu'il était en train de déraper.
C'est un terme de joueur de poker quand j'étais à Vegas.
Ta nouvelle vie encore. Patrick Bruel.
Et du coup, par contre, ouais, moi, je veux me concentrer. Je veux tous les clubs et le président et la direction se concentrent réellement sur le sportif, parce que le stade, dans un mois et demi, deux mois, ce sera peut-être plus un sujet si on commence à aller dans la Ligue 2 et dans l'aspect financier. Donc vraiment, concentrons-nous sur ça. Le stade, ça change de trucs tout le temps. Je m'en fous. Je préfère parler football.
Il y a un match qui vient de démarrer, Benjamin, avec Eli Wai, titulaire, il a marqué. Pointe France Côte d'Ivoire en espoir. Enfin, ce sont les U23 de Thierry Henry. Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Non, je m'excuse. Il te reproche de ne pas le lancer sur le stade, mais derrière, il te dit, bah, j'ai pas envie d'en parler.
Non, 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 justement, je suis en train d'expliquer c'est que pour moi, c'est pas du tout le sujet prioritaire du MHSC.
Non, mais aujourd'hui. Ce qui est intéressant surtout de dire, Benjamin, c'est que pendant la mini-pause tout à l'heure à 18h35, il y a Thierry qui a ouvert sa tronche et qui nous a dit, bon, bah, maintenant que les micros sont coupés, je voulais vous dire, je suis désolé, vraiment désolé encore pour mon retard.
Franchement, vous êtes des bâtards.
Et donc, le gars, c'est-à-dire que quand les micros sont ouverts, il nous envoie des mitrailleuses et ensuite.
Tu lui as dit, dis-le en antenne. Il a dit, non, j'ai une image. Tu sais ce qu'il m'a sorti? Il m'a sorti son fusible de sa moto. Il m'a ramené le fusible.
Mais c'est pas vrai.
Je jure, c'est le fusible.
Je savais que c'était ça, en plus. Je savais que c'était ça, mais je sais pas où il était.
Tu as fait une prestation.
Et je savais pas où il était. J'ai pas.
La prestation, elle est pas folle.
Ok, feu vert. Glace.
Merci Motopark de Mogio, en tout cas. Parce qu'ils avaient été super sympas. Ils m'ont pas fait payer.
Allez, la pub.
Ordinaire, mais vas-y, mais que tu veux pas non plus.
C'est vraiment pas une grosse panne. Hein.
Non, 18h45, c'est la trêve en Ligue 1, mais ça continue en D1. Gros match dimanche soir à Gramont avec la réception du PSG. Je vais lire quelques messages sur le hashtag Le Payade dans un instant, vous inquiétez pas. Les footballeuses de Montpellier sont quatrièmes avec 2 points et 3 points d'avance sur les 2 poursuivants. J'ai le fusible dans les mains. Petit matelas, forcément. Il est petit ce fusible, hein. C'est quoi? C'est une moto.
C'est une pétrolette.
C'est une pétrolette.
Le prochain fusible qui va sauter, c'est
petit matelas donc pour les footballeuses de Montpellier, forcément, après un résultat décevant le week-end dernier, au Havre justement, match nul 3-3, qui n'a pas plu à Yannick Chandiou, le coach, à Marion Thauran pas davantage, capitaine de la Payade. On les a interrogés tous les deux ce matin. Et ça ne part pas parce que ça fait dodo là, ça fait dodo dans la régie.
Il a manqué fusible aussi.
Marion Thauran ce matin en conférence de presse.
Bien sûr de la frustration. On a montré pas mal de caractère pour à chaque fois remarquer un but après en avoir encaissé un. Caractère, mais peut-être on a lâché sur le mental parce qu'on a pris le troisième qui nous a mis dedans et très déçu parce qu'on se devait de gagner, surtout à l'extérieur. Ça nous permettait d'avoir des points et d'aborder le PSG avec plus de sérénité.
Au classement, en effet, vous avez un tout petit matelas désormais sur les poursuivants et vous avez deux gros rendez-vous, le PSG et le Paris FC. Est-ce que ça vous oblige quelque part à faire un résultat sur l'un des deux matchs ?
Obligé, je crois pas. Par contre, on a travaillé et on va tout faire pour en prendre, mais pas obligé. Mais on va tout faire pour. Après, il y a beaucoup de déceptions sur le dernier match. C'est pas dans mes valeurs de lâcher à 3 minutes, 2 minutes, mais peut-être même là 1 minute de la fin. C'est pas possible, on défend trop mal sur la dernière action. J'en veux aussi à l'équipe sur le deuxième but encaissé. On enchaîne quelques erreurs. On n'a pas assez défendu à ce moment-là. On a un premier exemple, un deuxième, qui nous montre que Le Havre est en capacité de revenir au score. On ne doit pas lâcher derrière, on doit faire front, on doit être plus fort à ce moment-là. Maintenant c'est fait, c'est le foot, il faut passer à autre chose. Moi je suis déjà passé à autre chose personnellement, je pense que le groupe aussi, et on va tout faire pour faire un coup là, bien sûr. Moi je prends ce match comme une situation où on n'a rien à perdre, même si effectivement on peut peut-être se dire qu'à la fin, si on ne prend pas de points aujourd'hui et la semaine prochaine, ça sera peut-être préjudiciable. Mais si on regarde de plus près, il faudrait un parcours exceptionnel des deux autres concurrents. Donc je me dis juste qu'il faut l'aborder avec l'envie d'aller chercher quelque chose, de faire un coup, le fait de beaucoup y croire. Les stats récentes nous montrent que l'on peut y croire. Sur les 4 derniers matchs, on a fait deux fois match nul, donc on prend des points. On n'est pas loin de le gagner aussi. Je pense que, et on l'a dit souvent cette saison, c'est nous qui avons les données en main. On a un adversaire de très haut niveau, mais quand on est performant, on est connecté tout ensemble. Quand on est très ambitieux dans le jeu, très concerné sur le plan défensif, on est une bonne équipe. On a une bonne équipe. Nous sommes une bonne équipe. Mais il faut le montrer plus souvent et j'espère qu'on sera en capacité contre Paris de le montrer.
Marion, vous l'avez en effet, comme dit Yannick, vous l'avez embêté ce Paris Saint-Germain cette dernière saison, notamment ici à Gramont. Est-ce qu'il est plus abordable, entre guillemets, que l'Olympique Lyonnais, cette saison notamment, d'après toi?
L'Olympique Lyonnais nous fait beaucoup mal sur les coups de pied arrêtés. Le PSG, ça sera plus dans le jeu. Après, ça dépend de leurs états de forme. Hein. Pour quelques filles que je connais très bien au PSG, c'est quand même des personnes qui ne lâchent rien jusqu'au bout. Après, elles ont peut-être moins de bancs que l'Olympique Lyonnais. Maintenant, ce qui est bien pour nous, c'est qu'on les joue à domicile. Et à domicile, c'est vrai que cette saison, on a quand même fait de bonnes performances, que ça soit dans la qualité, dans le cœur. Enfin, tout ce qu'on a, on a montré à domicile, c'était quand même positif. On va dire qu'aujourd'hui, le PSG, quand même, ça tourne pas mal. Elles ont retrouvé son cas Toto. Elles ont eu une nouvelle joueuse qui a marqué encore en Ligue des Champions. Elles sont sur une bonne lancée en Ligue des Champions. Voilà, elle gagne de l'expérience, de la maturité. Donc, c'est sûr que ça va être compliqué à jouer. Maintenant, on a aussi des joueuses de qualité. Peut-être que sur le papier, individuellement, on est moins forte, mais collectivement, on arrive à se compléter et ça peut suffire sur un match.
Yannick, vous allez avoir le costume d'outsider, évidemment, sur ce match-là. Est-ce que vous ne gérez pas mieux, finalement, ce costume-là? Parce que c'est souvent quand vous avez été favori cette saison que vous avez fait des contre-performances.
J'espère qu'on gérera bien quand même jusqu'à la fin de saison quand on sera favori, parce qu'il va y avoir des matchs importants qui vont arriver après. J'ai envie de répondre oui, notamment à domicile. Donc je rejoins Marion là-dessus, il faut encore l'amplifier. Peut-être qu'on a une posture un petit peu d'équipe qui va devoir travailler plus défensivement. On le sait, la possession sera un peu plus parisienne. Les statistiques nous le montrent. Donc oui, c'est possible. Après, je crois qu'aujourd'hui, Paris est au niveau de Lyon. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu match nul. Ça s'est joué dans les derniers instants où finalement PSG menait. Je crois vraiment que PSG est au niveau de Lyon actuellement. En début de saison, peut-être pas. Ça veut dire qu'il y a une équipe qui progresse. C'est un vrai gros adversaire. Je reste persuadé qu'on est capable de faire cet exploit. Et si on le fait, je pourrais dire chapeau à mon groupe, parce qu'on joue une équipe qui risque fortement d'être demi-finaliste au moins de la Ligue des Champions. Et ça, c'est un super défi pour nous à relever, aller taquiner une équipe qui est dans le dernier carré de la plus grosse compétition au monde. C'est un vrai défi et j'espère qu'on sera en capacité collectivement de le réussir.
Dans vos résidences services seniors Domitis. Journée portes ouvertes les 22 et 23 mars. Au programme, deux journées de convivialité et de belles rencontres avec de nombreuses activités ouvertes à tous. Rendez-vous les 22 et 23 mars dans la résidence Domitis la plus proche. Retrouvez toutes les animations et informations sur domitis.fr. Domitis est membre du groupe AG2R La Mondiale.
Retrouvez chaque lundi et vendredi dès 18h, 100% paillade sur France Bleu Héros.
Allez, 100% paillade jusqu'à 19h. Il nous reste quelques minutes. Ça chambre pas mal hors micro parce que Thierry, vraiment, là, je découvre un nouveau Thierry. Le mec qui
change de visible.
En fait, il faut qu'il arrive en retard pour briller. En fait.
Ouais,
quitte à être foutu.
C'est le truc des mogueux, c'est lui a mis un autre fusible, je crois.
Ouais, je crois qu'il a pété un câble, le gars. Il a pété un câble de la moto. Pour finir, tiens.
Ah, le gars, il a
il est notre champion à nous.
Voilà.
Benjamin Psaume. Benjamin Psaume qui vient de connaître un virage dans sa carrière. Benjamin Psaume sera bientôt, il l'a teasé, il n'a pas arrêté de la journée, dans une série sur Canal+. Ça démarre le 10 avril, ouais, avec le retour de la Champions League, évidemment, sur la chaîne cryptée. Les épisodes seront diffusés dans la foulée des matchs de Ligue des Champions. La série s'appelle Au micro, c'est un grand casting lancé par Canal pour trouver un nouveau commentateur. Benji aime les défis, donc il s'est lancé dans celui-ci, au milieu de passionnés de foot. Donc commenter n'est pas le métier au départ. Hein. Il y a des instituteurs, des bouchers, des étudiants, des mécaniciens de Mokyo,
des anciens joueurs.
Et donc il y a un ancien joueur. Il y a un ancien joueur. Alors il y a beaucoup de garçons, de filles également. Je sais qu'il y a une Bretonne notamment qui intervient dans l'équivalent de 100% paillade à France Bleu Armorique à Rennes, qui fait partie de l'émission. Et donc il y a Benjamin Psaume qui s'est lancé là-dedans, qui a été retenu d'abord parmi des milliers de voix, et puis ensuite, et ben il était dans le casting final et donc dans la série Benji.
Ouais. C'est ça. Au départ, je voulais pas y aller. C'est une amie qui m'a inscrit à ce casting. Mais je voulais prouver des choses. Je voulais me prouver des choses et voir déjà toi ce que tu fais au quotidien, de s'apercevoir que c'est ultra compliqué. C'est ce que j'ai appris dans cette aventure. Non, c'est compliqué. C'est très compliqué de commenter un match. C'est pas pareil qu'être consultant. Et c'est vrai que Canal, pour moi, c'est le foot depuis toujours. J'ai grandi quand même avec Canal et quand on m'a inscrit à ce casting, j'ai passé les étapes petit à petit. C'est vrai qu'il y a eu 10 000 candidatures. Ça a cartonné. sélectionné. Il y a eu 10 000 candidatures.
Et au final, vous êtes combien?
Au final, on a été 30.
30. T'imagines?
On a été 30. On a été sur 3 dates. Paris, Marseille et Lens. 10 candidats dans chaque ville.
Et Benji était à Marseille. Et dingue, quand même, il avait dit à personne. Il n'avait pas le droit d'en parler.
Oui,
ils
n'ont
pas trouvé 30 mecs meilleurs que Benji. C'est ça qui me.
Non, mais après, ça a été très compliqué. C'est une belle aventure. J'espère que ça va plaire honnêtement aux gens qui vont regarder. J'ai été à l'avant-première il y a 2 jours à Paris, c'est pour ça que maintenant je peux un peu plus en parler.
Mais il peut pas tout dire encore.
Non, bien sûr que non.
S'il a gagné, s'il a perdu, ah si, non, voilà.
Bien évidemment, je peux rien dire, mais j'ai vu le premier épisode. On a regardé ensemble le premier épisode qui était Paris, et je pense que ça va plaire. Ça va plaire parce que pour moi, ça touche tout le monde. Parce que comme tu dis, c'est pas réservé aux journalistes, aux consultants, c'est réservé à tout le monde.
Même Thierry aurait pu le faire.
Et Thierry, c'est tout vrai. Le monde. J'ai vu tous les profils, les candidats. On est devenus assez proches avec certains candidats. C'est ouvert à tout le monde et l'épisode. Franchement, j'ai vu des prestats, je suis resté scotché. Je vous laisserai regarder, mais j'ai vu des mecs, j'ai découvert des mecs. Il y en a qui envoient, des acharnés du foot. Ils te parlent de foot sur le bout des doigts. Donc ça a été une très belle aventure. Et je vous laisse découvrir le 10 avril le premier épisode après PSG Barça. Ce sera Paris. Et mon épisode à moi qui est à Marseille, ce sera la semaine d'après. Bah, chaque semaine, il y a un épisode. Et après, on va comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la finale. Et le vainqueur gagne un contrat d'un an chez Canal+.
Et il y a eu des rencontres, évidemment, puisque le casting, enfin le jury, c'était David Ginola.
Laure Boulot et Hervé Matou.
Et Hervé Matou, celui qui un peu anime le
Redouane Bougueraba.
Redouane Bougueraba.
Ah, qui nous a bien fait rire.
Ça a été très sympa.
Et là, ça a taillé. Ouais.
Et alors, la grande question que tout le monde s'est posée toute la journée depuis qu'il a teasé, Benji, c'est est-ce que tu vas quitter France Bleu Héros et 100% Paillade? La réponse ce soir.
J'ai pas fait ça pour ça. Le problème, c'est que je peux pas trop en dire parce que je peux pas dire si j'ai remporté.
Donc, suspense.
Si j'ai remporté ou pas, je peux pas le dire.
Ce sera suspense. Mais voilà, tout le monde va se demander si je vais prendre Arnaud Souquet comme consultant ou si
c'est les mains Camara.
Ou sous les mains Camara.
Mais là, c'est ce qui me fait mal. Par contre, tu sais pas du tout l'issue et t'as déjà réfléchi à celui qui va me remplacer. Ça me fait mal, ça. Par contre, on va en reparler tout à l'heure.
Et alors, pourquoi j'y ai pensé? Parce que c'est la première question que Thierry a posée.
Lui, sans fil. Titi m'a fracassé.
C'est bien passé. Il a juste dit, qui te remplace?
Titi m'a démonté.
Bon, j'avais des messages également. En tout cas, bravo Benji.
Merci, merci. À tous. Avec merci pour vos messages aussi, j'en ai eu beaucoup.
Effet, on regardera ça sur Canal.
Il prend déjà tellement la grosse tête qu'en fait, maintenant, il a un CM pour écrire son message aujourd'hui.
Oui, bien sûr, il a fait appel à une agence lyonnaise.
Ouais, qui est pas ouf.
Tom qui me disait d'accord avec Benji, on irait en Europe, tous nos chers politiques se bougeraient pour trouver une solution. On a d'autres chats à fouetter là, hashtag Bleu Paillade. Tom qui a participé à toute l'émission nous disait également deux maintiens d'affilée, on va être champion en Champions League l'année prochaine. Benji, tu nous as déjà fait le coup de la grande saison après s'être maintenu.
Ouais, c'est ce qui arrive souvent les gars, c'est ce qui arrive souvent. Moi je le voyais chaque fois, les équipes elles montaient.
Il a fait @canal+ après.
Et il nous disait également, on est devenu un club de gagne petit, on va se régaler à jouer le maintien chaque année.
Non, mais vous verrez les émotions, les gars, vous verrez les émotions.
Pour citer Loulou, regardez, qu'est-ce qu'il disait? Pour citer Loulou, poignardez-moi le cul avec une saucisse, hashtag Bleu Paillade.
Ah, tu finis sur ça, d'accord.
Ouais, c'est un peu. C'est pas ouf de finir sur ça quand même, mais j'ai lu le commentaire. Je vais donner le mot de la fin peut-être à Magali Marianne qui a réalisé une très belle émission aujourd'hui. 18h58, j'ai 20 secondes pour vous dire merci, pour vous saluer, pour vous inviter à télécharger le podcast. On a fait des chiffres de fou, je les ai communiqués la semaine passée, plus de 4000 écoutes podcast en février, en plus des auditeurs en direct, sur les plateformes, sur le web, ça c'est juste les podcasts. On a fait 4000 réécoutes, plus de 4000 réécoutes en février, on est 8e podcast sport de tout France Bleu, donc merci à tous.
Ah, c'est beau.
Et ça c'est grâce aux personnes également qui arrivent en retard le soir.
Moi, je vais podcaster la première demi-heure.